Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Campus Lille 106,6, campuslille.com et sur le DAB+. On se retrouve aujourd'hui dans l'émission Quoi de neuf de René Lavergne et c'est moi exceptionnellement qui fais l'animation aujourd'hui pour parler de Cité Philo, de la 29e édition de Cité Philo. Donc, je suis en compagnie de Alice, Thibaut et Frédéric. Bonjour.
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 Donc cette édition, elle est un peu particulière parce que vous parlez d'un sujet, d'une thématique, l'urgence. Peut-être qu'on peut commencer avec ça. Alice, est-ce que tu peux nous parler de, déjà, pourquoi cette thématique ?
La thématique de l'urgence, je pense qu'elle nous concerne tous et toutes. Elle désignait autrefois un état d'exception dans notre régime temporel, mais aujourd'hui, on a l'impression un petit peu, tous les jours, constamment, d'être dans l'urgence pour nos tâches personnelles, notre rapport au travail, etc. Et on a voulu questionner, prendre un petit peu de distance avec cette nouvelle manière de vivre le temps, la questionner et essayer de mieux la comprendre pour cette édition Cité Philo.
Comment vous choisissez les thématiques pour Cité Philo ? C'est une question de groupe ou c'est toi particulièrement qui a apporté cette idée ?
Les deux à la fois, mais c'est surtout collectif. En général, après l'édition précédente qui se termine, donc durant le mois de décembre en général, on se réunit pour apporter chacun et chacune des propositions de thèmes pour l'année suivante. On va les lire ensemble, les étudier, en discuter et voter. Et c'est donc celle de l'urgence qui a été retenue l'année dernière en décembre 2024. Voilà.
Et l'urgence, c'est une notion un peu pluridisciplinaire. Elle touche à plusieurs domaines et c'est ce qui se ressent d'ailleurs dans vos conférences-entretiens. Est-ce que Thibaut, Frédéric, vous pouvez nous parler un peu de justement les conférences que vous proposez cette année ?
Alors, pour ce qui concerne l'invité d'honneur ou en général ?
En général ou...
Alors en général, c'est un peu compliqué là de vous en parler comme ça parce que le programme est quand même... j'ai pas fait le compte. Mais on ne doit pas être loin de 80 rencontres,
oui,
97. Donc ça m'est un peu difficile de vous en parler. Alors si je peux me permettre, je vais plutôt
parler de l'invité d'honneur.
Ouais.
Oui, complètement.
C'est un peu le même principe pour l'invité d'honneur. C'est-à-dire que c'est aussi une discussion qu'il y a dans le groupe au mois de décembre et puis avec un atelier ensuite qui suit généralement en janvier. Et donc pour ce qui est de Jean-Christophe Bailly, c'était un peu particulier parce qu'on en parle depuis 2 ans, c'est quelqu'un qu'on suit, qui est venu à Cité Philo plusieurs fois, 4 fois en tout, et dont on voilà une certaine considération pour son œuvre qui est assez impressionnante, hein, parce qu'il a, à lui seul, en son nom propre, il a publié plus de 60 livres. Et puis en tant que responsable éditorial, si on compte tous les ouvrages pour lesquels il a participé, il y en a une centaine. Donc c'est une œuvre vraiment considérable. Et donc on le suit depuis longtemps et on s'était dit il y a 2 ans, moi j'avais présenté cette proposition. Et il était rentré en concurrence, on avait du mal à se départager entre l'invité d'honneur de l'année dernière et Bailly. On s'est dit on prend les deux mais on va faire un dans l'ordre, on va d'abord, voilà. Et donc il est invité d'honneur que pour cette année et pas pour l'année dernière. Donc voilà un peu la petite histoire, mais c'est pareil, c'est une cooptation, c'est un vote entre nous. Alors pourquoi Bailly et puis les différentes rencontres qui sont liées à sa personne ? D'abord, ça tient à son œuvre, il est quand même assez... il ne se range pas dans une discipline, c'est assez amusant parce que quand on lit des articles sur sa personne, sur son œuvre, il y a toujours une difficulté à le décrire. Alors on dit, il est critique d'art, il est philosophe, il est poète, ou il est écrivain, poète et philosophe, etc. Et ces différents qualificatifs disent quelque chose de son œuvre, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas au découpage disciplinaire qu'on connaît. Là, on est ici sur une radio universitaire. Et c'est vrai qu'à l'université, on a l'impression que le réel se calque un peu sur les disciplines. Il y a d'un côté la littérature, de l'autre la philosophie, puis il y a la poésie, puis il y a l'urbanisme, et puis il y a l'ethnologie, l'architecture, etc. Et lui, son principe, et qu'on a essayé de rendre par les différentes rencontres qui sont proposées, les 4 rencontres qui sont proposées, c'est de s'adapter à lui, c'est-à-dire suivre les veines de sens qui l'intéressent lui et qui l'emmènent à visiter des disciplines. Alors, il sera question d'urbanisme. Il va être question de littérature, évidemment, et de poésie. Il sera question de philosophie, il sera question de photographie. Parce que pour lui, ce ne sont pas des domaines étanches les uns par rapport aux autres, mais les veines de sens qui l'intéressent quand il essaie de décrire ce qui est réel, c'est-à-dire ce à quoi on est confronté au quotidien, ça passe par des séjours dans des disciplines diverses. Et quand on réfléchit aux animaux, qui est un grand thème pour Bailly, on en passe forcément par la question du langage, on en passe par la question de l'habitat. Les animaux ont des nids, ont des terriers, ils se cachent, ils vivent un environnement. On en passe par des questions qui sont multiples et qui n'obéissent pas aux simples disciplines, etc. Et donc les quatre séances là, qu'on a prévues, qu'on a élaborées avec Jean-Christophe Bailly, hein, en sa compagnie, et ben, c'est un parcours qui reflète cette diversité. La première séance traditionnellement, qui est dite la séance de présentation ou de parcours en fait, entre nous on l'appelle la séance de parcours, est quand même sous le signe de la littérature, mais de la littérature prise au sens large. C'est-à-dire littérature entendue comme essai, c'est-à-dire qui s'aventure dans des domaines assez divers, et puis parce que d'abord c'est un écrivain et qu'il a une écriture assez impressionnante. Donc c'est plutôt sous ce jour-là qu'il sera montré dans cette première séance. La seconde séance, samedi matin, donc à 11h, sera autour de la photographie. Donc c'est une séance un peu... Je continue à vous décrire ou...
J'avais juste une question. Pourquoi ce choix de personnes pour ce thème de l'urgence?
Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est souvent un malentendu. Et Cité Philo fonctionne... Le programme global de Cité Philo fonctionne sur quatre piliers qui ne sont pas forcément liés entre eux. Il y a le thème, ça c'est l'urgence, c'est une chose. Il y a l'invité d'honneur qui n'est pas forcément lié au thème, ou qui n'est jamais lié au thème. Il y a ce qu'on appelle l'actualité éditoriale, les livres sortis pendant l'année. Et puis, il y a les lycées, et puis il y a les partenariats, en fait, aussi. Il y a presque cinq piliers. Et les partenariats avec différentes institutions qui nous permettent de nous aventurer un peu en dehors du thème et de l'invité d'honneur. Il se trouve que cette année... Et en fait, on trouve toujours des liens. On dit « Ah non, Jean-Christophe Bailly, ça n'a aucun rapport avec l'urgence. » Mais finalement, quand on lit, si. Ah, parce qu'il traite du temps, il traite du temps en permanence. Mmh. C'est-à-dire que le fond, en fait, le fond de sa pensée, le fond de son écriture, c'est un rapport à la temporalité. Alors, ça ne s'affiche pas comme tel. Et d'ailleurs, on ne l'a pas pensé quand on a proposé Jean-Christophe Bailly comme invité d'honneur. On s'est dit « Oui, bon, ça va, c'est pas... » En fait, on ne s'est pas posé le problème du lien, mais en fait, le lien est évident, mais ça apparaît après coup. Si vous voulez, après, je vous lirai un petit extrait. Je suis tombé il y a deux jours sur un texte qui aurait pu servir de chapeau pour le thème de l'urgence, écrit par Jean-Christophe Bailly. C'était amusant de tomber sur ce texte après coup.
Peut-être que justement, pour revenir juste sur la thématique de l'urgence, on parlait du rapport au temps. Et c'est quoi les autres rapports qu'il y a dans l'urgence? Là, tout de suite, je pense à l'urgence climatique parce qu'on a parlé des animaux. Mais est-ce qu'il y en a d'autres?
Il y en a énormément d'autres. On peut. Bon, déjà, on a notre rapport intime au temps, intime et subjectif, qui nous concerne toutes et toutes. On a aussi, bien sûr, la question des pandémies. Thibault invitera dans deux semaines environ Frédéric Keck sur cette question-là. On a pu voir, par exemple, que la pandémie de Covid-19 a révélé notre vulnérabilité face à l'imprévu, face à des crises que nous n'avions pas anticipées. Il y a évidemment la question politique également. Est-ce que l'urgence est un... Enfin, à la fois la question de l'urgence dans la politique, mais aussi de l'usage du mot « urgence » comme mot rhétorique utilisé en politique. L'état d'urgence, par exemple, la hiérarchie des urgences en politique. On a également, bien sûr, les urgences hospitalières, en fait, la question du protocole, du protocole médical face à l'urgence. Et puis, toute une réflexion également plus large sur la crise, comment agir dans l'urgence sans reproduire les mêmes mécanismes qui ont conduit à la crise initiale dans laquelle on est. Et voilà, donc bien sûr, l'urgence climatique, comme vous l'avez souligné. Et puis, en réalité, c'est un petit peu difficile de s'arrêter finalement, parce que c'est devenu presque une nouvelle norme temporelle de notre société, de vivre dans l'urgence. Et donc, finalement, elle réapparaît dans énormément de champs. Il y a finalement assez peu de choses qui résistent à l'urgence. La discussion que nous avions avec Bruno Remory hier était justement de se demander si la création artistique peut finalement s'en extraire elle aussi.
Là, dans les exemples de thématiques que vous m'avez données, il y a plusieurs réactions. Dans l'urgence, il y a la panique, du fait de la crise, du fait de l'imprévu. Mais en parlant d'art, il y a aussi la nouveauté, peut-être l'espoir qui peut se retrouver dans l'urgence.
Oui, tout à fait. Après, bon, nous, en philosophie, on adore faire des distinctions. Donc, on pourrait distinguer, par exemple, l'urgence de... j'ai perdu le mot, excusez-moi. Mais d'une nécessité impétueuse, en quelque sorte, ou d'un besoin qu'on aurait de... Donc, en fait, on pourrait effectivement trouver énormément de nuances à partir de ce temps-là accéléré j'ai l'impression effectivement que on aura aussi une rencontre sur la catastrophe et la réaction face à la catastrophe. Est-ce que l'urgence, c'est aussi ce qui nous paralyse quelquefois? Mais je crois qu'il y a dans ce terme d'urgence l'idée qu'il y a une nécessité d'agir, l'idée qu'on pourrait éviter le cataclysme par l'action dans l'urgence. Donc c'est intéressant parce que c'est à la fois quelque chose qu'on subit et qui nous demande de devenir actif, je crois. Mais oui, effectivement, il y a énormément de postures différentes face à cette... On le voyait également lors de la leçon inaugurale, Christophe Bouton a souligné qu'il y a des profils qui réagissent très bien à l'urgence. Dans le monde du travail, il y a des personnes qui se sentent en quelque sorte galvanisées par les deadlines, qui vont avoir un sentiment d'adrénaline, vouloir aller encore plus vite que ce temps qui accélère dans le monde du travail. Donc en fait, on est tous et toutes assez différents face à cette sensation du temps, mais en tout cas, on a l'impression quand même de la subir un petit peu tous et toutes. C'est ça aussi qui est intéressant.
Et on n'est pas égaux face à l'urgence?
Tout à fait, ce sera l'objet de la rencontre avec Nicolas Duvoux la semaine prochaine, qui est sociologue et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Inégalité du temps vécu » et qui va justement travailler cette question des inégalités sociales face au vécu du temps et face à l'urgence, notamment. On n'est pas du tout égaux en fonction si on a un patrimoine ou non, en fonction de ce qu'on possède. Nous ne sommes pas nous ne vivons pas dans les mêmes temporalités, voilà.
Aussi, ce que je trouvais intéressant avec la thématique de l'urgence, le fait qu'elle touche à plusieurs domaines, ça vous permet aussi de parler à des personnes différentes. Là, on parlait des hôpitaux, on va plutôt s'intéresser à des médecins, mais là, par exemple, demain, il y a celle urgence et journalisme, faut-il ralentir l'information? Ça va plutôt parler aux journalistes ou du moins aux personnes qui traitent l'information et les personnes qui la consomment. C'est fait exprès aussi de pouvoir, par ce thème, parler à un plus large public?
Tout à fait. Je pense que de toute façon, ça, c'est une identité de cité philo, c'est d'avoir une posture vraiment ouverte par rapport à, je crois, hein, par rapport à énormément de disciplines. Enfin, j'ai l'impression que c'est assez fréquent qu'on invite autre chose que des philosophes. C'est aussi une pratique qui fait partie de la philosophie, hein, de lire de l'anthropologie, de lire de l'histoire, de lire autre chose que de la philosophie pour se nourrir philosophiquement. Et donc, ce thème-là permet encore plus ces grands écarts disciplinaires qui sont extrêmement enrichissants. Et donc, oui, c'est complètement volontaire.
Et donc, ça revient un peu aussi avec l'idée de l'invité d'honneur qui traite dans ses ouvrages de différents sujets, qui n'est pas attaché à une spécialité, entre guillemets.
Oui, c'est ça. En fait, il y a une espèce de mantra, si t'es philo, ou un ethos, pour rappeler les choses correctement, un ethos qui s'appelle la philosophie au sens large. Dire que la philosophie n'est pas la discipline philosophique entendue d'un point de vue académique, c'est plus large que ça. C'est l'activité raisonnable et rationnelle de penser, et la pensée, ça s'aventure dans des recoins aussi, ça va loin, ça fait des zigzags, et ça correspond tout à fait, mais là c'est presque c'est un hasard, ça correspond tout à fait à ce que Jean-Christophe Bailly appelle la littérature au sens large aussi. La première séance autour de Bailly, ça sera sur... a pour titre un absolu littéraire, c'est ça. C'est-à-dire que la littérature, on ne peut pas dire qu'il y ait... Si on la comprend comme une discipline, il n'y a pas un absolu en littérature. C'est parce qu'elle s'aventure, c'est la littérature au sens large, c'est sa capacité à penser, c'est sa capacité à penser à travers l'exercice de la parole, du langage, de l'écriture. Donc ça déborde un peu de partout, ça déborde la stricte discipline académique. Donc là, on est vraiment dans l'éthos de Cité Philo et la philosophie au sens large.
Non, c'était filé aussi à la particularité que vous proposez vos entretiens, conférences dans différents lieux, qui touchent aussi à différents domaines. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu, Thibaut.
Oui, non, ben, notamment sur les lycées, j'y pensais à l'instant, parce que cette variété à la fois thématique, mais aussi des gens qu'on invite, on la retrouve dans la programmation en lycée chaque année. On essaie de pas simplement inviter des philosophes. Cette année, par exemple, il y a 14 rencontres qui sont prévues dans les établissements scolaires des académies de Lille et d'Amiens, et parmi les invités, il y a des philosophes, bien sûr, mais il y a un historien de l'art, il y a des historiens tout court, si je puis dire. L'année dernière, il y avait un dessinateur de bande dessinée qui est venu aussi, qui a intervenu, qui avait fait l'adaptation en bande dessinée du roman Petit Pays de Gaël Faye, qui était intervenu dans un lycée à Hénin-Beaumont. Et donc voilà, cette philosophie au sens large, c'est aussi celle de citer philo dans les lycées, dont l'esprit plus généralement est de mettre en contact deux univers qui se rencontrent pas forcément, à savoir le public des lycéennes, des lycéens, et puis les universitaires, permettre aussi au public des lycéens de découvrir un rapport à la philosophie aux sciences humaines qui est un peu différent de celui qu'ils connaissent dans les enseignements qui suivent avec les professeurs, qui sont forcément articulés à l'impératif de l'examen à la fin de l'année. Là, même si ça peut être préparé par les professeurs dans le cadre du cours, c'est quand même un temps un petit peu différent. Et puis, ce sont des rencontres qui sont non pas marginales dans la programmation de Cité Philo, mais qui, par le public auquel elles s'adressent, et puis par leur temporalité, parce qu'elles sont, la plupart n'ont pas lieu en novembre, mais entre le mois de décembre et le mois de mai de l'année suivante, sont un petit peu différentes. Elles correspondent aussi à la volonté qui est au cœur de Cité Philo de mettre la philosophie et au cœur de la cité, mais d'une façon un petit peu différente.
Il y en a déjà eu des conférences là dans des lycées ?
Alors cette année, non. Je crois que la première, c'est au mois de décembre. Et de décembre à mai. Je crois que ça commence à... Oui, la première, je crois que c'est à Doulan, et puis à Armentières, si je ne dis pas de bêtises. Et puis à Amiens aussi, parce qu'il y a tout un rebond de la manifestation à Amiens au mois de décembre, après le temps principal qui a lieu à Lille en novembre. Donc non, ça commence un petit peu plus tard.
Parce que là aussi, je me demandais si c'était un choix de la part de Cité Philo de proposer à des lycéens des conférences sur la thématique de l'urgence, puisque les jeunes, ils sont baignés dès leur naissance maintenant à un flux d'informations qui les amène à réagir plutôt rapidement à l'urgence. Je pense au fait que les jeunes ont vécu la crise du Covid alors qu'ils étaient dans leurs études. Est-ce que c'est un choix ou ça vient par hasard ?
Alors, on n'en a pas parlé avec Alice, donc que je sache, ça n'a pas fait partie. Je me souviens pas du moment où on a discuté du thème. Je me souviens pas que cet élément-là est joué, mais effectivement, c'est intéressant. Et ce qui est signifiant, c'est que les rencontres dans les lycées à Cité Philo, elles peuvent se rattacher au thème de l'année. Mais elles peuvent aussi porter sur des thèmes très différents. Par exemple, je l'ai dit au lycée d'Archicourt d'Hénin-Beaumont, ça fait deux années de suite qu'ils font quelque chose sur la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda, sans que ça se rattache particulièrement ou explicitement au thème de l'année. Et donc il y a certaines années, où sur certains thèmes, on voit que la majorité des rencontres dans les lycées, elles prennent pas spécialement appui sur le thème. Et là, c'est vrai que cette année, auprès des différents, de la petite équipe de collègues, professeurs de philosophie, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des collègues d'autres disciplines qui accueillent des rencontres avec Cité Philo, le thème a retenu leur attention, en fait. Et donc, il y a beaucoup de parmi les rencontres dans les lycées cette année, il y en a quand même un certain nombre. Je sais plus, c'est, je dirais, un tiers, comme ça, à peu près, qui se rattache au thème de l'urgence, sans doute, en tout cas pour les échanges que j'avais eus avec certains d'entre eux, parce qu'ils se disaient que ça pouvait effectivement interpeller le public des lycéens. Il y a une rencontre sur l'urgence au sens de la médecine d'urgence, avec un philosophe Pierre Valette, qui intervient d'ailleurs aussi dans le cadre de Cité Philo à Amiens. Il y a une rencontre sur l'urgence écologique. Donc effectivement, ces thématiques-là, elles ont retenu l'attention des professeurs qui accueillent les rencontres de Cité Philo dans les lycées.
Je ne sais pas si vous pourrez me répondre à ma question, mais est-ce que les thématiques ont un lien avec le lieu dans lequel l'entretien va avoir lieu ? Par exemple, le journalisme, typiquement, c'est à l'ESJ Lille, mais est-ce que c'est toujours un peu en lien ?
On essaye. Ça peut faire partie, effectivement, des critères par rapport aux salles et aux partenaires qui nous proposent les lieux. Donc oui, ça peut arriver, oui.
Peut-être pour revenir sur l'invité d'honneur, vous avez parlé tout à l'heure des photographies. Mmh. C'est quoi le rapport de la photographie dans le thème cette année ? Qu'est-ce qui va se passer autour de la photographie dans Cité Philo ?
Alors la photographie, c'est un thème qui est rattaché à l'invité d'honneur, parce que dans son œuvre, il a laissé une place considérable à la photographie. Il a écrit plusieurs livres. Alors pour le comprendre, il faut passer par un détour, il faut passer par un biais. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut se dire, il est poète, il a écrit des livres de poésie, il écrit des essais qui, des fois, sont assez philosophiques. Il a aussi enseigné dans une école d'art et il a quand même une thèse de philosophie, donc on pourrait dire qu'académiquement, il est philosophe. Mais il a beaucoup écrit sur la photographie. Mais quand on le lit un peu, on voit qu'il a un rapport à la photographie, non pas de photographe, mais il la considère comme, au sens où lui ne prend pas de photographie. Hein. C'est un critique de photographie ou c'est un commentateur. Mais il la considère toujours comme une prise de notes sur le monde. C'est-à-dire qu'il ne fait pas une différence fondamentale entre le fait de prendre une photographie et le fait de prendre des notes. Et c'est ça qui rattache, enfin c'est à cet aspect-là que son intérêt pour la photographie se rattache à sa qualité d'écrivain. C'est-à-dire qu'il se pense toujours, lui, il dit toujours qu'il prend des notes, il ne voyage jamais sans son carnet de notes. Et quand il parle de photographie, il y a un livre qui est symptomatique pour ça, qui est vraiment très captivant, parce qu'on arrive enfin à faire le lien. Il se trouve que Jean-Claude Sauvoyer est venu il y a 2 ans pour un livre qui s'appelle... L'éclosure continue, qui est sur la photographie, et toute la fin, c'est sur ce rapport entre la photographie et la prise de notes. Il dit, mais est-ce que je fais la même chose qu'un photographe quand je prends mes notes ? Est-ce que la photographie est une façon de prendre des notes sur le monde, sur le réel, etc. Et donc, c'est ce qui fait que quand on invite Jean-Christophe Bailly en tant qu'invité d'honneur, on ne peut pas ne pas parler de la photographie. Ça fait partie du paysage de son œuvre. J'aimerais bien, j'ai retrouvé le petit texte qui fait le lien entre Jean-Christophe Bailly et le temps.
Allez-y.
Donc, c'est quelques lignes qui se situent dans un livre dont le titre est l'élargissement du poème, et c'est le dernier chapitre. Le dernier chapitre, c'est joli, le titre du chapitre, c'est « Ralentir ». Et alors il dit, dans bien des cas, aller vite est un plaisir ou une nécessité, mais la lenteur est ce qui permet l'ouverture du champ. La lenteur, c'est comme si l'on descendait du cheval du temps pour le regarder passer et constater qu'il n'a pas qu'un galop, qu'il a des allures et que même parfois il s'arrête. La lenteur est le chemin le plus court, le plus rapide, pour faire l'expérience du temps. Donc ça aurait pu servir de chapeau.
Tout à fait.
Un texte sur l'urgence. Donc voilà, et il y a quelques semaines, on s'était vus, on avait parlé, mais Jean-Christophe Bailly, c'est un ralentisseur. Mais ça confirme ce que j'avais dit, alors qu'à l'époque, je n'avais pas relu ce texte. Mais il y a vraiment une poétique du ralentissement, parce que le sens, si on veut l'attraper dans ce qu'il a de solide, dans ce qu'il a de descriptif par rapport au réel, ne s'accommode pas bien de l'urgence, disons, de l'aspect sautillant des choses. À un moment donné, il faut trouver ce que Jean-Christophe Bailly appelle les veines de sens. C'est-à-dire que comme on est dans une mine, il y a une veine de charbon, il y a une veine... Il faut le suivre, mais ça, c'est un travail de la lenteur.
Peut-être que je vais un peu trop loin dans la réflexion, mais la lenteur, c'est aussi la photographie, puisque c'est une prise de vue, un cliché d'un moment, d'un instant, et ça rentre aussi dans l'urgence, parce que dans l'urgence, dans le moment, on va prendre en photo un instant qui va avoir des répercussions, qui est comme une prise de note, vous l'avez dit, dans un flux de temps, en fait.
Ouais, c'est plus que la lenteur, c'est l'arrêt, enfin c'est une espèce d'une coupe, c'est une coupe sur le dans le temps. Si on pense, alors c'est une image qu'il utilise où il considère que le temps c'est comme un câble serti, c'est-à-dire qu'il y a c'est plusieurs câbles tressés entre eux. En fait, c'est les vrais câbles sous-marins sont c'est comme ça, c'est une tresse et au cœur de cette tresse, il y a un noyau en plastique qui protège tout, enfin bref. Et il dit voilà, une photographie, c'est une coupe. Donc il y a des temps entrelacés, et on fait une coupe dans ces temps qui sont entrelacés. C'est une assez belle image. Mais la photographie, c'est à la fois ça, mais ça n'est pas que ça. Parce qu'elle a une fonction de rémanence, c'est-à-dire qu'elle nous rappelle des choses, on est renvoyé à son passé, c'est à la fois un instant, parce que c'est vrai que ça témoigne d'une chose qui a existé à un instant T, mais en même temps, elle a une existence qui est prolongée, et elle nous fait mesurer le caractère du temps au sens où il peut se distendre. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas le rapport au passé. La photographie assure ce lien de façon assez énigmatique. Si c'était vraiment qu'une coupure, qu'un instant, il ne nous permettrait pas de nous lier à un temps passé. Elle a une espèce de... C'est une zone extensive. Mais ça, il en parle très bien, puis il en parlera bien mieux que moi. Il faut venir samedi matin, parce que c'est juste ce jeu-là dont il va parler, c'est sûr.
Et comment il va parler des photographies, justement, dans cet entretien ?
Alors, je vous décris un peu la séance, parce qu'on a imaginé un dispositif. Il se trouve qu'il y a pas mal d'années de ça, Jean-Christophe Bailly travaillait pour les éditions Azan et avait commandé un livre à un photographe et écrivain qui s'appelle Denis Roche. Il lui avait demandé de faire un livre autour des 100 photographies qui pour lui font l'histoire de la photographie. Donc ça a donné un livre fameux qui s'appelle Le Boîtier de Mélancolie, qui est une référence en matière de photographie. Et on s'est dit, on va faire la même chose avec Jean-Christophe Bailly. On va lui demander de nous parler de 10 photographies. Alors ça, on n'a pas le temps parce qu'une séance, c'est quand même assez court. Donc il va nous parler de 10 photographies qui pour lui font l'histoire de la photographie, son histoire à lui. Donc voilà, il va nous parler. Et nous, quand il aura fini, donc on va faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps, on va lui proposer des photographies qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'on va lui proposer. Donc on a réfléchi à une réponse. Donc on a travaillé notamment avec des étudiantes de l'Université de Lille qui sont en parcours photographie. Et donc on a construit une réponse. Et on va lui soumettre des photos que le public verra, évidemment. Et il devra réagir comme ça, à chaud, sur... Alors nous, évidemment, on a pensé ses réponses en fonction des photos que lui-même a choisies. Donc il nous a dit les photos dont il voulait parler, on les a trouvées, scannées, etc. Donc on les projettera. Et en réaction à ces photos, nous, on lui fait une réponse pour instaurer un dialogue. Et pourquoi ça et pas ça, et pourquoi pas ça, enfin, bref.
Mais ce que j'allais dire, vous discutez plus que pas à travers les mots, vous discutez à travers les images, là.
Aussi.
Je pensais à autre chose par rapport à la thématique de l'urgence, etc. Vous parliez de ralentir le temps, ralentir l'instant, en fait. Les conférences, est-ce qu'elles n'ont pas aussi une vocation dans ce sens-là ?
C'est très intéressant. Effectivement, on est enfermés tous ensemble pendant 2 heures. Et finalement, c'est un format qui permet de prendre son temps des deux côtés de la scène. À la fois, la personne invitée va vraiment avoir le temps de déployer sa pensée, de revenir sur certains points. En général, l'invité parle au moins une heure en échange avec le modérateur ou la modératrice. Et dans un second temps, quand les micros circulent dans la salle pour le public, en général, on a au moins une demi-heure, 40 minutes de questions. Et là, c'est vraiment un temps très précieux qui est vraiment très appréciable parce que c'est pas juste 10 minutes de questions pour la salle, quoi. Il y a vraiment les micros qui circulent et les gens qui réfléchissent à partir des questions qui viennent d'être posées, qui réagissent après avoir entendu la réponse de l'invité face à une question du public. Et je trouve vraiment que c'est 2 heures, c'est vraiment le format idéal pour pour cette, enfin voilà, ce moment passé ensemble, à la fois pour l'invité et à la fois pour le public.
Mais je trouve aussi ça fait tout le charme de Cité Philo. C'est pas une discussion à un seul sens. C'est vraiment un groupe qui parle en fait autour d'un sujet. Et est-ce que c'est pas un peu une invitation pour les gens à parler d'un sujet, à faire émerger une réflexion chez eux?
Bah, ce serait, enfin, c'est l'idéal si ça se passe comme ça. C'est ce qu'on espère évidemment. Et je, enfin, moi personnellement, c'est le retour que j'ai le plus souvent des invités que j'ai accompagnés. C'est de les, enfin, qui me disent à la fin, les questions du public étaient vraiment intéressantes et on a vraiment eu le temps de leur répondre. Et enfin, en fait, ils apprécient beaucoup justement ce moment-là. Après avoir parlé, je pense qu'ils sont assez habitués à devoir parler de leur travail, mais d'avoir des personnes d'autres milieux qui viennent par curiosité pour leurs travaux et qui prennent le temps de leur adresser des questions auxquelles ils ont réfléchi en amont, mais parfois souvent et surtout au moment où ils les ont entendues. Ça, c'est, je pense que c'est peut-être un peu plus rare pour eux d'avoir autant de questions. Voilà.
Est-ce que c'est toujours des profils différents qui viennent?
Oui, assez souvent. Là, par exemple, hier, l'invité qui était là a demandé parfois au public, enfin aux personnes du public, le métier qu'elle pratiquait. Et donc, on avait, il y avait une personne du public qui était dessinatrice de bande dessinée, une personne qui était comédienne, quelqu'un d'autre qui était professeur de philosophie ou bibliothécaire. Donc voilà, c'était assez varié.
Et hier, c'était quel entretien ?
Bruno Remory sur Urgence et création.
Ah oui, okay. Oui, donc un sujet un peu plus large.
C'est ça.
Très bien. Et peut-être revenir un petit peu sur les endroits dans lesquels ont lieu les entretiens, justement liés au profil. Là aussi, ça joue sur le type de personne qui va venir voir les conférences.
Oui, je dirais que les lieux jouent. Effectivement, il y a plusieurs éléments qui sont croisés. Il y a les lieux et puis il y a le type de rencontre. Par exemple, hier, j'ai eu la chance d'assister à cette rencontre avec Bruno Remory au Palais des Beaux-Arts. Et c'est vrai qu'au Palais des Beaux-Arts, chaque année, il y a un certain nombre de rencontres de Cité Philo qui s'y déroulent. Mais c'était pas le même public que d'habitude. Les personnes qu'évoquait Alice, je pense, venaient assez spécifiquement. Sinon pour l'invité, en tout cas pour ce dont il allait parler. Après, voilà, pour parler de ce que je connais un peu mieux et dont je m'occupe dans les lycées, c'est vrai qu'il y a des lieux assez différents et où on va aussi choisir des alors pas toujours, mais parfois les professeurs qui programment vont choisir des invités en fonction de leur public. Je pense par exemple à l'ESAT à Roubaix, qui est une école d'art appliqué, où il y a cette année une rencontre sur la typographie dont la thématique s'articule directement avec le type de public qui va être concerné par cette rencontre. Après, je ne sais pas, peut-être qu'Alice et Frédéric auront perçu des choses que je n'ai pas perçues, mais cette année, par exemple, la leçon inaugurale sur le thème, qui a d'ordinaire lieu au Palais des Beaux-Arts, elle a eu lieu à Sciences Po. Voilà, pour des raisons d'organisation. Mais je saurais pas dire si ça a eu une vraie incidence sur le public qu'on a eu. Il m'a semblé, après Sciences Po et le Palais des Beaux-Arts, bon, c'est pas non plus les...
Il y aurait un petit truc à dire quand même sur Cité Philo, parce que, en fait, on a un mode de fonctionnement, et à Cité Philo, on essaie autant que possible de fonctionner sans inscription, sans réservation, et on vient comme ça. Et c'est un peu, bon voilà, ça fait partie du fonctionnement de Cité Philo depuis 29 ans. Mais quand on fréquente certains lieux, parce qu'on a besoin de partenariats, il y a d'autres lieux qui ont un autre mode de fonctionnement, notamment à l'université, où il faut s'inscrire, ou alors pour des raisons X ou Y, qui sont légitimes ou qui le sont moins, pour Vigipirate, etc. Mais l'université veut avoir les listes d'inscription. Et moi, j'ai un peur des fois que ça effraie un peu le public, ou alors simplement il ne s'inscrit pas, ou il se dit « Ah, c'est l'université, c'est un milieu un peu spécial, je n'y vais pas ». Donc, on a quand même remarqué que les lieux universitaires, on peine un peu à faire en sorte qu'ils soient perçus par le grand public comme d'autres lieux. C'est quand même un peu un lieu... ça passe pour être moins accessible. Et c'est dommage parce que on pense quand même, enfin on essaie autant que faire se peut de rapprocher Cité Philo de l'université, mais c'est toujours un petit combat quand même pour que ça fonctionne bien.
Je reviens sur les lycées, les élèves ils sont en demande des conférences, parfois ils peuvent demander un invité spécial.
Alors, demander un invité spécial, ça existe, ça fait plus de 15 ans maintenant que les rencontres de Cité Philo ont lieu dans les lycées. Moi, je m'en occupe depuis pas si longtemps que ça, donc je n'ai pas souvenir d'avoir eu des échos d'élèves qui demanderaient, ça supposerait certaines connaissances aussi sur l'actualité de ce qui s'écrit en philosophie ou dans les sciences humaines, et c'est vrai que les programmes scolaires sont plutôt tournés vers le passé. En revanche, oui, ce sont généralement, enfin quand ça se passe bien, ce sont des expériences qui les interpellent, qui les impliquent beaucoup. C'est très différent, effectivement, de... Enfin, je pense que Alice dirait la même chose. On a souvent la question en début d'année, quand on est professeur de philosophie, de savoir s'il existe des philosophes vivants. Donc, en faire venir et voilà, leur faire prendre conscience du fait que les philosophes, ils vivent dans un temps qui est le leur, qui sont, enfin, que c'est pas seulement des Grecs ou des Romains morts il y a plus de 2000 ans. Oui, ça les implique d'une toute autre façon. Après, voilà, de là à dire qu'il réclamerait telle ou telle personne, ou tel ou tel sujet, c'est possible. Tel ou tel type de question, oui, mais telle ou telle personne en particulier, je pense, ça doit être plus rare.
Peut-être qu'on peut finir sur une question un peu simple finalement. Comment, après 29 éditions, on trouve encore de l'inspiration pour trouver une thématique, pour trouver des invités et un sujet ?
Difficile de répondre, mais en fait j'ai l'impression que toutes les personnes qui composent Cité Philo, et je pense notamment aux deux cofondateurs de cette aventure, c'est la passion de la philosophie avant tout qui nous anime et qui fait qu'on a constamment, même entre nous, envie de se parler de ce qu'on a lu, de ce qu'on a entendu à la radio, et en fait qui nous donne envie ensuite de le partager à plus grande échelle. Donc je pense que ça ne s'arrêtera jamais.
Vous êtes d'accord ?
Oh oui, et puis en plus on pourrait dire qu'on en est à notre 29e édition. Je pense qu'il y a plus que 29 problèmes dans le monde. Et donc ça nous laisse de la marge pour aller un peu plus loin et dans d'autres directions. Donc, oui, voilà. Et puis souvent, on a des thèmes qui reviennent, qui peuvent ressembler à ceux qui ont été traités quelques années avant, mais qui ont une formulation un peu différente, et nous-mêmes, on bouge. C'est-à-dire que, y a des choses qui reviennent souvent sur le langage, sur le dire, sur l'action. Alors après, il y a des formulations qui sont différentes, et qui sont... mais il y a, je dirais, il y a des enjeux forts, et qui trouvent leur reformulation au gré du temps. Parce que l'actualité nous requiert de façon un peu différente.
Je vous remercie. Je vais laisser René conclure l'émission.
Eh bien, merci beaucoup à nos invités. On rappelle que l'urgent, c'est en ce moment d'assister à ces rencontres proposées par Cité Philo. C'est bien sûr d'aller sur le site citéphilo.org. Et pour cette édition 2025-2026, je vous souhaite tout le succès possible et imaginable. Alors, Sophie Castagnier, je te remercie pour cette animation.
Avec plaisir.
Bien sûr, on te retrouvera sur Radio Campus quand tu le souhaites. Hein. Tu es mon invité permanente, hein, pratiquement. Là. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée.
Merci.
Merci.
Vous écoutez Radio Campus Lille, 106,6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Vous pouvez réécouter cette émission, et les autres d'ailleurs, pendant 8 semaines sur le site campuslille.com. Alors cette émission, c'est d'ici une heure, tout sera disponible sur le site dans la partie programme. Donc programme, c'est quoi de neuf ?